L'ADN du leader. Narration par Stéphanie Milo. Auteure de renom, conférencière et femme d'affaires, Stéphanie Milo est une experte en motivation. Elle a comme mission de fournir des outils aux gens afin qu'ils améliorent leur vie. Bien présente à la télévision avec de nombreuses apparitions à l'émission Denis Lévesque et Salut Bonjour, Stéphanie Milo nous a habitués à un point de vue rafraîchissant et rempli de bon sens. Dans cet audio, l'ADN du leader, Stéphanie va vous expliquer comment les dernières découvertes scientifiques nous permettent de mieux comprendre notre cerveau et surtout les impacts que nos pensées peuvent avoir sur notre vie en général.
Saviez-vous qu'on peut se programmer pour avoir plus de succès, pour persévérer dans l'atteinte de nos objectifs, bref, pour réussir dans n'importe quelle sphère de notre vie? Vous savez, depuis plusieurs années, les nouvelles recherches en neurosciences nous ont permis de comprendre comment notre cerveau fonctionne et comment il peut nous aider à réussir notre vie. Alors, dans le cadre de cet audio, je vais vous enseigner comment vos programmations mentales peuvent vous aider ou vous nuire dans l'atteinte de vos objectifs. Je vais aussi vous parler de comment persévérer dans l'atteinte de vos buts, car vous le savez, très souvent, quand on se fixe un objectif, au départ, on est super motivé. On pense qu'à chaque fois que ça va être la bonne fois, mais la réalité, c'est que malheureusement, trop souvent, on revient à nos anciennes habitudes. Le naturel revient au galop. Et finalement, vous allez apprendre comment utiliser le pouvoir de la programmation du subconscient pour atteindre vos buts. Alors, évidemment, ce que je vais vous parler aujourd'hui, c'est basé sur les nouvelles découvertes qui ont été faites depuis plusieurs années en neurosciences et sur le cerveau. Mais soyez sans crainte, je vais garder ça le plus simple possible. L'idée, c'est de vous donner des stratégies pratico-pratiques à mettre en place pour, une fois pour toutes, persévérer dans l'atteinte de vos rêves, de vos buts, de vos objectifs. Si vous me connaissez, il y a une chose qui me tient à cœur, c'est le bonheur, la réussite. Et ça fait des années que j'étudie qu'est-ce qui fait qu'on est heureux. Et je suis arrivée à un constat, c'est que on a tous un dénominateur commun, nous les êtres humains, on veut réussir. Et vous savez, je tiens souvent à le dire que lorsque je parle de succès, de réussite, je tiens à donner ma définition à moi de la réussite. Parce que trop souvent, les gens qui vont penser au mot succès ou réussite vont penser à la réussite professionnelle, la réussite financière. Et oui, en quelque part, il y a cet aspect-là. Pour moi, c'est une forme de succès, de réussite, tout le côté professionnel, monétaire. Mais c'est beaucoup plus vaste que ça pour moi, la réussite. Pour moi, la réussite, c'est de réussir aussi dans sa vie de couple, si on a choisi d'être en couple. C'est de réussir dans son rôle de parent, si on a des enfants. C'est de réussir dans nos relations en général. C'est de réussir par rapport à soi-même, par rapport à notre façon de prendre soin de nous. C'est par rapport à notre santé. Donc, la réussite, pour moi, c'est très vaste. Et ce qu'on doit réaliser, c'est qu'au-delà de savoir qu'on veut tous réussir, on a aussi tous un dénominateur commun, c'est qu'en bout de ligne, on veut être heureux. Alors, quelle que soit votre définition du succès ou de la réussite, que votre objectif soit de dire « je veux partir en affaires, je veux atteindre l'indépendance financière, je veux rencontrer l'âme sœur, je veux avoir des enfants, je veux perdre du poids, je veux courir des marathons », quel que soit votre but, vous voulez le réussir, vous voulez l'atteindre, mais aussi on pense que l'atteinte de nos objectifs va nous rendre heureux. Et je dois vous le dire, on doit faire attention à cette illusion-là, parce que souvent, on va se dire, quand je vais être rendu là, je vais être heureux. Hein? Quand j'aurai cette promotion-là, je vais être heureux. Quand j'aurai mon enfant, je vais être heureux. Quand je serai marié ou quand j'aurai rencontré l'âme sœur, je vais être enfin heureux. Quand j'aurai tel chiffre d'affaires ou quand je serai en affaires. Mais il y a une illusion là-dedans. Parce que la réalité, c'est que le chemin qui nous permet de se rendre à nos buts, à nos objectifs, doit être agréable, doit... Le chemin, évidemment, fait partie de cette atteinte-là. Et très souvent, ce qui fait qu'on abandonne, c'est qu'on perd notre motivation, c'est qu'on perd le plaisir, c'est qu'en cours de route, on n'a plus de fun à se rendre où est-ce qu'on s'en va. Donc, évidemment, oui, on veut réussir, on veut être heureux, mais c'est Abraham Maslow qui l'a bien dit. Il a parlé dans sa fameuse pyramide. Vous avez sûrement déjà entendu parler de la pyramide de Maslow. Abraham Maslow disait, à partir du moment où tu as réalisé, tu as comblé tes besoins de base, donc les besoins physiologiques, manger, dormir, ensuite tes besoins de sécurité, ton besoin d'estime, d'amour. En haut de la pyramide, il y a, selon Maslow, le besoin de s'accomplir, le sentiment de s'accomplir. Et moi, très souvent, je vais comparer la poursuite d'un but, d'un rêve, au haut de la pyramide de Maslow. Le fait de dire, non seulement je poursuis un rêve, un objectif, mais en quelque part, j'ai du plaisir à m'y rendre. Oui, ça demande des efforts. Oui, des fois, j'ai des épreuves. Oui, des fois, il y a des embûches. Mais en quelque part, c'est ce qui me permet au quotidien de me réaliser, d'avoir l'impression que ma vie est vécue pleinement. J'étudie depuis plus de 25 ans les principes du succès. Je me suis toujours posé la question, qu'est-ce qui fait qu'on réussit? Qu'est-ce qui fait qu'on est heureux? Comment ça se fait que certaines personnes sont incroyablement heureuses alors que d'autres, on a vraiment l'impression qu'ils vivent un éternel enfer sur Terre? Et je me suis toujours posé ces questions-là. C'est quoi la recette des gagnants? C'est quoi la stratégie des gens qui réussissent? Et aujourd'hui, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a la réponse à beaucoup de ces questions-là. Vous savez, depuis plusieurs années, depuis maintenant une quinzaine d'années, on parle beaucoup de psychologie positive. Alors, qu'est-ce que la psychologie positive? Bien, il faut savoir qu'il y a des chercheurs de partout dans le monde qui se penchent sur ces mêmes questions-là. Qu'est-ce qui fait qu'on est heureux? Qu'est-ce qui fait qu'on réussit? Qu'est-ce qui fait qu'on vit une vie remplie de sens? Et aujourd'hui, on a des réponses qui nous viennent du domaine scientifique. Vous savez, c'est Martin Seligman qui a parlé de ça en premier, il y a plusieurs années, lors d'une convention avec des centaines de collègues à lui. Martin Seligman était à l'époque le président de l'American Psychological Association, donc l'Association de psychologie américaine, et il a dit dans une conférence, depuis toujours, en psychologie, on s'est intéressé aux problèmes de santé mentale, aux problèmes de pathologie, aux problèmes de dépression, et on a oublié l'autre bout du spectre. Et l'autre bout du spectre, c'est qu'est-ce qui fait qu'on est heureux, qu'on se réalise, qu'on s'accomplit. Et à partir de ce moment-là, Martin Seligman, qui était un homme d'influence, a volontairement ou involontairement lancé l'idée à ses collègues de commencer à étudier le bonheur. Alors, c'est ça la psychologie positive. Trop souvent, des gens me disent, c'est quoi la psychologie positive, Stéphanie? Est-ce que c'est le fait de voir la vie à travers des lunettes roses? Pas du tout. La psychologie positive, c'est vraiment une science qui est étudiée maintenant partout dans le monde. Il y a des chercheurs qui sont affiliés à des universités dans tous les pays qui étudient le bonheur. Alors, évidemment, c'est vraiment un domaine scientifique et la définition de la psychologie positive, c'est l'étude scientifique des forces, du fonctionnement optimal et des déterminants du bien-être. Donc, ce champ de la psychologie vise vraiment à mieux cerner ce qui fait que notre vie vaut la peine d'être vécue. Alors, parmi les thèmes de recherche, on va retrouver, entre autres, la force de caractère, l'espoir et l'optimisme. Certains vont étudier l'engagement, la motivation, la passion, la gratitude, les émotions positives, le bonheur, le bien-être, la résilience, l'autodétermination, le leadership, bref, plusieurs sujets pour nous permettre de comprendre qu'est-ce qui fait qu'on est heureux, qu'est-ce qui fait qu'on se réalise. Maintenant, si je vous disais, la connaissance, c'est le pouvoir. Est-ce que vous êtes d'accord avec cet énoncé? La connaissance, c'est le pouvoir, ça veut dire quoi? Ça veut dire, est-ce que c'est vrai que si tu sais quoi faire pour réussir, ça te donne du pouvoir, ça va faire en sorte que tu vas réussir? Vous savez, j'ai pris l'habitude de poser cette question-là aux gens dans mes conférences et je peux vous dire que habituellement 99% de l'audience va lever sa main en disant « Oui, Stéphanie, on est d'accord. Plus on en connaît sur un sujet, plus on connaît les stratégies pour réussir, si on connaît les recettes des gagnants, bien évidemment, oui, on va réussir. » Et moi, j'ai envie de vous dire, je suis pas d'accord avec cet énoncé. Vous savez, la connaissance, c'est pas le pouvoir. C'est pas la connaissance qui est le pouvoir, c'est l'utilisation de la connaissance qui est le pouvoir. C'est quoi la différence entre les deux? Vous avez fort probablement déjà lu des livres en développement personnel. C'est sûr que si vous m'écoutez, vous avez un intérêt pour ce type de sujet. Vous avez peut-être écouté d'autres audios du genre, assisté à des séminaires. Et la réalité, c'est que vous avez emmagasiné un paquet d'informations. Est-ce que vous les avez appliquées? Vous savez, on sait tous quoi faire pour être en bonne santé. On sait tous quoi faire pour avoir des relations harmonieuses. On sait tous qu'on doit communiquer adéquatement pour avoir une vie de couple harmonieuse. Alors, il y a plein de choses qu'on sait consciemment, mais si on ne les applique pas, ça ne fonctionne pas. Et trop souvent, on ne les applique pas. Trop souvent, vous avez peut-être lu un livre sans le mettre en application. Trop souvent, vous avez peut-être payé pour des formations et vous n'avez pas appliqué ce qu'on vous a enseigné. Alors, j'ai envie de vous dire, c'est le premier principe à prendre en note. Ce n'est pas la connaissance qui est le pouvoir, c'est l'application. Donc, avec cet audio, mon objectif est vraiment de vous donner des stratégies pour vous aider à persévérer et à atteindre vos objectifs. Vous voulez voir des changements dans votre vie? Bien, évidemment, c'est super d'écouter cet audio, de lire sur le sujet, mais vous devez aussi passer à l'action. Vous devez faire ce qu'on vous enseigne et trop souvent, ça reste au niveau de notre rationnel. On dit « oui, je le sais ». Et combien de fois j'ai des gens qui m'ont dit, parce que j'ai eu pendant des années une clinique où j'aidais des gens en thérapie, combien de fois j'ai des gens qui me disaient « oui Stéphanie, je sais ce que tu m'enseignes, je sais que je dois gérer ma colère et je sais comment le faire ». Mais je leur disais « est-ce que tu le fais ?» Ils me disaient « non, je ne le fais pas ». Allons maintenant plus loin. Je vous ai dit que je vous parlerai des nouvelles recherches en neurosciences. Vous savez, quand on parle de succès, de réussite, d'atteindre ses objectifs, on sait aujourd'hui que le succès serait génétique. Et oui, il y aurait 50% de notre propension à réussir dans la vie qui viendrait de notre génétique, de nos parents. Imaginez. Et je sais pertinemment, je fais souvent cette blague en conférence en disant, je sais qu'il y a des gens actuellement qui m'écoutent et qui se disent, oh mon Dieu, je suis découragée parce que j'ai pas nécessairement une génétique, donc j'ai pas nécessairement des parents qui avaient du succès ou qui avaient une propension à être heureux ou à réussir. Mais réalisons une chose, c'est un 50%. Toutefois, il y aurait aussi, et encore là, c'est selon toutes les études qui sont menées depuis plusieurs années, un 10% de notre propension à réussir, à atteindre nos objectifs, à avoir du succès qui viendrait du facteur chance. Donc, encore là, aucun pouvoir sur ce facteur chance-là. C'est quoi le facteur chance? C'est le timing. C'est être à la bonne place au bon moment. C'est faire une rencontre significative par hasard, mais qui nous amène à un autre projet ou qui nous amène à atteindre notre objectif. Donc, encore là, 50% de génétique, 10% de facteur chance. Par contre, la bonne nouvelle, et c'est là-dessus qu'on va travailler dans le cadre de cet audio, c'est qu'il nous reste un 40% qui nous provient de nos attitudes, nos comportements, nos actions, nos stratégies, notre environnement, mais aussi de nos programmations mentales. Et dans le cadre de cet audio, je vais spécifiquement vous parler de nos programmations mentales. Vous le savez, on est des êtres qui avons été programmés. Quand je dis « avons été programmés », ça n'a rien d'ésotérique. C'est qu'on a des croyances. Quand on parle de programmation mentale, c'est tout notre système de croyances. Ce qu'on croit depuis qu'on est tout jeune et qu'on continue de croire à l'âge adulte. Le système de croyances, ce qu'on doit comprendre, c'est que c'est quelque chose qui s'est forgé avec les années et qui est parfois conscient, mais malheureusement aussi très souvent inconscient. Alors, d'où viennent nos croyances? Nos croyances, elles viennent de plein d'endroits. Premièrement, de notre entourage, les gens qu'on côtoie, de nos parents, évidemment. Ce que nos parents nous ont dit, ont créé chez nous des croyances. Si vos parents vous ont dit « t'es le meilleur », tout ce que tu touches, tu le réussis, tout ce que tu fais, ça tourne en or. Ben évidemment, ils vous ont induit volontairement ou involontairement des croyances qui ont été, dans le cas des croyances que je viens d'énoncer, très bonnes pour vous. Mais à l'inverse, si on vous a toujours dit « t'es incompétent, t'es donc gauche, t'es maladroit », ben évidemment, vous avez peut-être grandi avec ce type de croyance qui est excessivement négative. Et c'est pas surprenant de se retrouver à l'âge adulte et de se poser la question « pourquoi j'ai pas confiance en moi? » Mais oui, mais toute ma vie, mes parents m'ont dit ça. Donc, le système de croyance, ça part de loin. Ça peut venir de vos enseignants. Un professeur qui, en quatrième année, t'a félicité devant le groupe pour un oral, un exposé oral que tu avais fait. Ou à l'inverse, un professeur qui t'a ridiculisé devant le groupe. Et ça, ça a forgé, ça peut avoir forgé certaines croyances chez vous. Vos croyances viennent aussi de vos expériences de vie, de vos expériences heureuses, mais aussi de vos expériences malheureuses. Vos croyances viennent aussi des épreuves que vous avez vécues. Alors, certaines épreuves dans notre vie vont faire qu'on va développer un nouveau système de croyances. Prenons un exemple. La personne qui a toujours cru toute sa vie que le mariage, c'était pour la vie, et qui se marie, et qui, un jour, réalise que son partenaire de vie le ou la quitte. Et soudainement, son système de croyance, alors sa croyance que le mariage était à la vie, à la mort, vient de s'effondrer parce qu'elle est victime, puis j'aime pas utiliser le mot victime, mais elle vit quelque chose qui est en dehors de son système de croyance qu'elle n'aurait jamais pu cru arriver. Donc, évidemment, le système de croyances peut changer, mais évidemment, il est teinté par les épreuves qu'on vit. Il est teinté aussi par des événements marquants qu'on a pu vivre. Il est teinté par les résultats antérieurs qu'on a eus dans notre vie. Prenons un autre exemple. Une personne qui a tenté 3 fois de partir en affaires et qui a à chaque fois échoué ou qui n'a pas persévéré. Bien, évidemment, cette personne-là peut avoir développé dans son système de croyance la croyance suivante, les affaires, c'est pas pour moi. Alors que peut-être qu'elle n'a simplement pas choisi les bons projets, qu'elle ne s'est pas entourée des bonnes personnes, qu'elle n'a pas pris les bonnes décisions, mais elle s'est forgée cette croyance-là en fonction des résultats antérieurs qu'elle a eus. Ou encore la personne qui dit « moi, jamais je vais être capable de faire un discours en public ». Et souvent, cette croyance-là vient de loin. Moi, j'avais un client que j'ai rencontré il y a plusieurs années qui me disait « je viens d'être nommé directeur dans l'entreprise où je travaille et ce qui me stresse le plus, c'est que je vais devoir m'adresser à mon groupe, je vais devoir parler en public. » Et lorsqu'on a regardé avec lui pourquoi il y avait cette hantise, il disait juste à y penser « je fais une crise de panique ». On a réalisé qu'effectivement, en 3e ou en 4e année, donc lorsqu'il avait 8 ou 9 ans, il avait eu à faire justement un exposé oral et il avait eu un blanc de mémoire et il y avait un élève qui était parti à rire. Et à partir de ce jour-là, il s'était toujours dit qu'il était impossible pour lui de parler en public. Alors, imaginez un événement, un simple événement qui s'est passé il y a des années, des fois 30, 40 ans, va avoir enraciné dans notre cerveau des croyances qui sont malheureusement parfois très limitatives. Donc, nos croyances vont dicter notre façon de réussir, mais aussi notre façon d'échouer. Il y a quelques années, j'avais animé un séminaire et j'avais fait un atelier avec mes participants sur les croyances. Et j'avais demandé aux gens de répertorier leurs croyances par rapport à une multitude de sujets. D'ailleurs, je vais vous faire faire l'exercice un petit peu plus tard dans l'audio. Et il y avait des croyances tout à fait incroyables qui étaient ressorties. Je vais vous en nommer quelques-unes. Une des croyances qu'un participant avait écrit, c'est « c'est dur de gagner de l'argent ». Un autre participant avait écrit « être en affaires, c'est difficile ». « Ma santé est fragile. » « Les relations de couple, ça ne dure jamais. » « Je suis timide de nature. » « Je suis nulle pour gérer mes finances. » « J'ai pas la base des affaires. » « Dans notre famille, on est tous colériques, donc moi aussi, je suis comme ça. » « C'est difficile de perdre du poids. » Et j'en passe parce qu'il y en avait, là, j'en avais des centaines de croyances. Et vous savez, dites-vous une chose. Chaque croyance que vous avez va dicter votre façon de réussir ou de ne pas atteindre votre objectif. Parce que croyez-moi, vos croyances vont se concrétiser. Si tu crois que c'est difficile de gagner de l'argent, crois-moi, ça va être difficile. Si vous avez la croyance que votre santé est fragile, ben évidemment, c'est pas surprenant de prendre conscience que vous êtes souvent malade. Si vous pensez que l'adolescence, ça va être difficile avec votre ado, croyez-moi, ça va être difficile. Si vous croyez que c'est l'enfer de perdre du poids, voire impossible, parce que votre génétique ne vous le permet pas ou parce que vous avez des gros os, croyez-moi, ça va être tout un défi de perdre du poids. Alors dites-vous une chose, vos croyances vont se concrétiser. Ce que vous croyez va arriver. Vous savez, j'ai lu une étude que j'ai trouvée fascinante il n'y a pas tellement longtemps et il y avait un reportage qui a été fait sur cette étude-là. C'est sur des gens qui ont gagné à des méga loteries aux États-Unis. Et on s'entend, aux États-Unis, les méga loteries, c'est 75-100 millions de dollars. Donc, vous pouvez imaginer, tu gagnes 75 millions de dollars. Et ce qu'ils ont fait dans le cadre de cette étude-là, c'est qu'ils ont suivi pendant plusieurs années des gens qui avaient gagné à des méga loteries, mais des gens qui venaient de milieux défavorisés et qui avaient gagné de très gros montants. Et le plus surprenant, à la fin de ce reportage, c'est que plus de 95% de ces gagnants, après, à l'intérieur de 5 ans, avaient tout perdu leur argent. Imaginez, comment peut-on perdre 75 millions de dollars, 100 millions de dollars? Vous allez me dire, ils ont été mal conseillés, ils ont mal investi. Écoutez, c'est quand même énormément d'argent. Et ce qu'ils expliquaient, parce qu'ils faisaient le parallèle avec des gens qui, à l'inverse, ont monté des empires financiers, à l'exemple de Donald Trump. Mais certains de ces gens-là ont monté des empires financiers, mais à certains moments de leur vie, ont aussi tout perdu. Et le plus particulier, c'est que les gens qui ont réussi une fois dans leur vie à devenir très, très riches, même s'ils perdaient tout, La plupart du temps, ces gens-là vont être capables de se refaire, de regagner énormément d'argent. Pourquoi? Et le parallèle avec les gagnants à la mégaloterie, tout est une question du système de croyances. À partir du moment où tu as la recette, les croyances nécessaires à l'intérieur de toi pour avoir énormément d'argent, pour atteindre un succès financier, tu vas y arriver. Et l'inverse est aussi vrai. Les gagnants aux mégaloteries et ceux qu'ils ont étudiés particulièrement, c'était des gens qui toute leur vie avaient eu des défis au niveau financier. C'était des gens qui vivaient sous le seuil de la pauvreté et qui du jour au lendemain se retrouvaient avec une somme incroyable d'argent. Et ces gens-là n'avaient pas un système de croyance. Toute leur vie, ça avait été difficile pour eux de gagner de l'argent ou d'en économiser. Et le jour où ils se sont retrouvés avec une grande somme d'argent, bien malheureusement, la plupart d'entre eux l'ont dépensé de façon non judicieuse, se sont fait voler ou se sont fait arnaquer. Bref, ils ont tout perdu à l'intérieur de quelques années, malheureusement. Bref, un paquet d'histoires. Mais c'est simplement pour vous faire comprendre, et ce reportage-là expliquait très bien tout l'importance de notre système de croyances. Nos croyances ont dicté ce qu'on va réussir, ce qu'on va atteindre. Et ce qu'on doit réaliser, c'est qu'on peut changer notre système de croyances. Mais un constat qui est important à faire, c'est que la vie que vous avez aujourd'hui, elle provient entièrement des choix que vous avez faits dans le passé, bien sûr. Alors, tous les choix que vous avez faits dans les dernières années, à tous les niveaux, au niveau alimentaire, au niveau financier, au niveau de votre vie de couple, ben, c'est ça qui dicte la vie que vous avez en ce moment. Vos habitudes passées, hein, les habitudes que vous avez depuis 5, 10, 15 ans, c'est ça qui dicte votre vie actuellement. Les décisions que vous avez prises il y a 5, 10, 15 ans, ça aussi, ça a un impact sur votre vie d'aujourd'hui. Vos indécisions, mais aussi vos croyances. Tout ce que vous croyez depuis toujours a un impact majeur sur la vie que vous avez aujourd'hui. Et évidemment, si vous voulez avoir des nouveaux résultats, si vous voulez atteindre de nouveaux objectifs, si vous voulez gagner plus d'argent, partir en affaires, perdre du poids, vous remettre en forme, courir des marathons, drastiquement améliorer votre vie de couple, améliorer la relation avec votre adolescent, évidemment, si vous avez actuellement pas les résultats que vous souhaitez dans ces différentes sphères-là, vous allez devoir faire des nouveaux choix, développer des nouvelles habitudes, prendre des nouvelles décisions, trouver des nouvelles stratégies et aussi, super important, changer votre système de croyances, avoir des croyances différentes. Les gens qui ont réussi ce que vous voulez atteindre ne pensent pas de la même façon que vous, ont des croyances qui sont différentes. Le premier exercice que je vous propose aujourd'hui, c'est de réviser vos croyances par rapport aux différentes sphères de votre vie. Et ça, c'est vraiment important. Ne faites pas juste écouter, prenez le temps de faire l'exercice. Quelles sont vos croyances par rapport à votre vie de couple, si vous êtes en couple? Est-ce que vous croyez que c'est facile la vie à deux? Est-ce que vous croyez que c'est toujours des compromis, que c'est toujours de la chicane? Donc, quelles sont vos croyances? Et je vous dis, faites l'exercice de façon sérieuse parce que ça va vraiment, après avoir fait l'exercice, vous faire de grandes prises de conscience. Ensuite, posez-vous la question, quelles sont mes croyances par rapport à l'amour en général? Est-ce que je pense que l'amour, c'est pour la vie ou est-ce que je pense que l'amour, ça peut pas durer plus que 3 ans? Ben, peut-être que si vous avez cette croyance-là, ça explique que vous avez peut-être eu 12 relations depuis les dernières années. Quelles sont vos croyances par rapport à l'éducation des enfants? Est-ce que vous pensez que c'est facile? Est-ce que vous pensez qu'il faut être bien outillé? Quelles sont vos croyances? Quelles sont vos croyances par rapport à l'argent? Je vous en ai donné des exemples tout à l'heure. Est-ce que vous êtes le genre à dire « l'argent, c'est dur à gagner, ça pousse pas dans les arbres » Et souvent, on va répéter des choses que nos parents nous ont dit. Donc, quelles sont vos croyances? Quelles sont vos croyances par rapport au fait d'être en affaires? Et je vous invite à faire particulièrement l'exercice si vous avez envie d'être en affaires ou si vous êtes en affaires, mais que ça va pas à votre goût. Donc, c'est quoi vos croyances par rapport à ça? Quelles sont vos croyances par rapport à votre santé? Est-ce que vous croyez que vous avez un système immunitaire qui est fort? Est-ce que vous croyez plutôt que votre santé est fragile? Donc, vraiment, faites la liste de « qu'est-ce que je crois par rapport à ma santé? » Ensuite, quelles sont vos croyances par rapport à vos compétences? Donc, par rapport à ce que vous êtes capable de faire, par rapport à vos forces. Ensuite, quelles sont vos croyances par rapport à vos limites? Donc, on a des limites et c'est correct de les voir, mais est-ce que vous avez peut-être certaines croyances qui vous limitent dans l'atteinte de vos buts? Ensuite, quelles sont finalement vos croyances par rapport à votre caractère? Est-ce que vous avez pris pour acquis que, par exemple, vous êtes une personne de nature anxieuse et que ça va être comme ça toute votre vie? Ou encore, est-ce que vous dites « moi, je suis un colérique, qu'est-ce que tu veux, je suis comme ça, je peux pas changer ». Donc, je vous invite à prendre un temps d'arrêt et à faire cet exercice des croyances. Si vous avez en votre possession mon premier livre « Émotions quand tu nous tiens », j'ai écrit un chapitre entier sur les croyances. Donc, j'y explique c'est quoi les croyances, j'explique comment se défaire de nos croyances, comment les déraciner. J'explique aussi comment identifier nos croyances qui sont positives, parce que vous avez, et vous allez le voir dans l'exercice, vous avez certaines croyances qui sont excessivement positives. Si vous croyez, par exemple, que peu importe ce qui va vous arriver, vous allez toujours bien vous en sortir, que peu importe ce que vous allez faire dans la vie, vous allez toujours réussir. Moi, ma mère me disait toujours, Stéphanie, tout ce que tu fais, tu le réussis. Ben, j'ai acheté cette croyance-là en vieillissant, qui est une croyance excessivement puissante et excessivement dynamisante. Est-ce que ça veut dire que j'ai toujours réussi? Bien sûr que non. Mais les fois où j'ai pas réussi, parce que j'avais cette croyance-là qui était si forte en moi, je me laissais pas décourager, je me disais « Oh, j'ai moins bien réussi cette fois-là, mais c'est pas grave, parce que je réussis tout le temps! » Et c'est ça que je me disais, je suis honnête avec vous, je vous dis ça avec beaucoup d'humilité, mais cette croyance-là est tellement enracinée profondément qu'elle a été aidante pour moi toute ma vie. Donc, est-ce que vous avez ce type de croyance? Alors, vous allez réaliser au terme de l'exercice que vous avez des croyances qui sont super positives et ça, vous voulez les transformer en convictions. Et j'explique dans mon livre « Émotions quand tu nous tiens » comment transformer les croyances en convictions, mais aussi, vous allez apprendre comment vous défaire de vos croyances limitatives, comment les remettre en question. Mais juste de faire cet exercice aujourd'hui, de vous poser la question « C'est quoi mes croyances? » vous allez voir que ça va vous éclairer par rapport à certains objectifs parfois que vous vous êtes fixés, mais que vous n'avez peut-être pas réalisés. Très souvent, ça vient de notre système de croyances. Un de mes mentors, John Azaraf, a dit un jour dans une de ses conférences, il a posé la question à son auditoire, il leur a posé la question « Est-ce que vous êtes intéressé à avoir une vie meilleure? » Et évidemment, pratiquement l'ensemble de la salle a levé la main. Et quelques secondes après, John Azaraf a dit « Est-ce que tu t'engages à avoir une vie meilleure? » Et encore une fois, pratiquement la salle entière a levé la main. Et John Azaraf leur a dit « Vous savez, si vous êtes juste intéressé à avoir une vie meilleure, si vous êtes juste intéressé à atteindre vos objectifs, vous ne réussirez pas. Vous devez vous engager. Vous devez avoir cet engagement profond. Vous devez vraiment prendre la décision. » Vous savez, j'aime beaucoup John Azaraf. On l'a connu, entre autres, dans le livre « Le secret ». Si vous avez lu le livre, vous savez de qui je parle. Ou si vous avez vu le DVD, donc John Azaraf, qui est auteur. Et je trouvais ça extraordinaire parce que ce qu'il explique, c'est qu'effectivement, il y a toute une différence entre être intéressé. Tu sais, je suis intéressé à faire plus d'argent. Es-tu intéressé ou tu t'engages? Je suis intéressé à être plus mince. Es-tu intéressé ou vraiment c'est ton désir profond? Donc, est-ce que vous êtes vraiment décidé? Et je vous pose cette question-là aujourd'hui. Vous savez, quand on se fixe des objectifs, souvent moi je le fais en début d'année, moi je me pose toujours la question, est-ce que vraiment c'est ça qui me tient à cœur? Qu'est-ce que je veux vraiment? Et je sais pertinemment que les choses qui me tiennent à cœur et qui sont le plus importantes, je le sais que je vais les réaliser. Ça ne veut pas dire que ça va être plus facile, mais je sais que je vais persévérer. Alors, vous savez, quand on parle de persévérance, de persévérer dans l'atteinte de nos objectifs, c'est important de prendre conscience que votre pourquoi doit être super fort. C'est quoi votre pourquoi? En anglais, on dit le « why ». Est-ce que tu as un pourquoi qui est assez fort? Vous savez, à un moment donné, j'écoutais une de ces formations de John Azaraf et il prenait des appels téléphoniques. Et il y a un participant qui a posé la question. Il dit « Oui, mais... » Il dit « Moi, ça fait des années que je poursuis un but. » Et il dit « Je me pose la question, à quel moment est-ce qu'on arrête à un moment donné? À quel moment est-ce que ça ne devient pas de l'acharnement? » Et John Azaraf lui a dit, il dit « Tu persévères jusqu'à temps que tu atteignes ton but. Tant et aussi longtemps que ça va te tenir à cœur. » Et il lui a posé la question « Jusqu'à où est-ce que tu irais? Jusqu'à où est-ce que tu persévérerais si ton enfant t'était enlevé et que tu devais le retrouver? Tu lâcherais jamais. » Alors, les objectifs que vous avez qui sont suffisamment importants pour vous vous allez persévérer. Mais votre pourquoi? Pourquoi est-ce que je veux réaliser cet objectif-là? Votre pourquoi doit être assez fort. Le comment va apparaître en cours de route, mais le pourquoi est super important. Vous savez, c'est Napoléon Hill qui a dit dans son célèbre livre « Réfléchissez et devenez riche » « You need a burning desire ». Tu as besoin d'un désir brûlant. Quand tu te fixes un objectif, est-ce que cet objectif-là est suffisamment important pour toi? Est-ce que tu es prêt à mettre tous les efforts, à faire tout ce qu'il faut? Et trop souvent, c'est ce qui arrive. On se fixe un objectif, on se dit « Cette année, je vais me mettre en forme, je vais aller 4 fois par semaine au gym, je vais manger mes 5 fruits et légumes par jour. » Et malheureusement, après 3 semaines, on lâche parce qu'on se démotive, parce qu'on n'avait pas un pourquoi assez puissant. Mais évidemment, si le médecin vous avait dit, écoute, si tu fais pas ça, si tu suis pas un régime et que tu commences pas à t'entraîner 3 fois par semaine, il te reste 3 mois à vivre, c'est sûr qu'on aurait persévéré. Pourquoi? Parce que le pourquoi aurait été assez puissant. Mais évidemment, on n'a pas toujours un médecin qui nous dit ça et c'est pas souhaitable de toute façon. Mais la réalité, c'est que vous devez, pour chaque objectif que vous poursuivez, vous trouver votre grand pourquoi. Et des fois, ça prend du temps pour justement y penser et se poser la question, est-ce que je veux vraiment ça? Et si oui, pourquoi je le veux? Pourquoi est-ce que je le veux à ce point-là? Alors, vous savez, quand on parle d'engagement, l'engagement, un, c'est ce qui va vous permettre de persévérer, mais aussi l'engagement va faire que vous n'allez pas vous trouver des excuses. Vous savez, c'est trop facile de dire, cette année, je me remets en forme et je vais... La première semaine, 3 fois par semaine au gym, comme je me l'étais dit. Et j'y vais 3 fois la deuxième semaine. Et la troisième semaine, je me dis, oh, pas beau ce matin, oh, il grêle, oh, les routes seront pas belles. Ouais, non, j'irai pas. Je vais faire ça en maison plus tard. Et évidemment, qu'est-ce que vous pensez qui arrive? On le fait pas. C'est trop facile de dire, bon, là, j'ai décidé que je me parte en affaires, puis je vais monter mon plan d'affaires, puis je vais passer 3 heures par jour à travailler sur mon plan d'affaires. Et on le fait la première et la deuxième semaine. Mais avec le temps, on commence à couper dans les heures, puis on est trop occupé, puis on a un rendez-vous, puis on a un ami qui nous appelle. C'est trop facile de se trouver des excuses quand l'engagement n'est pas là. Donc, l'engagement, c'est ce qui va vous permettre de faire. Vous savez, une chose qu'il faut réaliser, c'est qu'on doit savoir pourquoi on veut atteindre cela. Et il y a des gens qui ont réussi ce que vous voulez atteindre. Il y a des gens qui l'ont fait. Et très souvent en conférence, je vais dire aux gens, allez prendre un café avec une personne qui a réussi à faire ce que vous voulez faire et inspirez-vous de cette personne-là. Allez vous chercher un mentor, allez vous chercher quelqu'un qui va vous aider aussi à persévérer. Vous savez, quand on parle de persévérance, quand on parle de croire aussi qu'on peut réussir, le fait de voir quelqu'un comme nous qui a réussi ce qu'on veut faire, un, c'est motivant, mais ça nous permet aussi de commencer à croire que c'est possible. Et ça m'amène à la fameuse histoire que vous avez peut-être déjà entendue de Roger Bannister. Roger Bannister, c'est le premier homme de l'histoire de la course à pied à avoir réussi à courir 1 mile à l'intérieur de 4 minutes. C'était dans les années 60. À l'époque, on calculait la course à pied en milles. Et lui avait réussi à briser ce record de tous les temps. Personne n'avait jamais réussi à courir 1 mile en moins de 4 minutes. Et lui l'a réussi. Et à cette époque-là, quand les journalistes de l'époque étaient allés le voir, et lui avait dit, « Monsieur Bannister, comment vous avez réussi cet exploit, cet extraordinaire? Wow! » Il avait dit, ben, « Je me suis entraîné et je me suis visualisé, je me suis vu briser ce record-là. » Et ce qui est le plus fascinant dans cette histoire-là, c'est ce qui s'est passé dans les années qui ont suivi. L'année suivante, plus d'une 20aine de coureurs ont réussi à briser le même record. 2 ans après, plus de 200. Qu'est-ce qui s'était passé soudainement? Comment ça se fait que depuis toujours, personne n'avait réussi à briser ce record-là et que soudainement, parce que Roger Bannister le réussissait, dans les années qui suivaient, il y avait... des centaines de personnes qui ont réussi à briser le record. C'est très simple. Roger Bannister a simplement ouvert le système de croyance de tous ces coureurs qui ont commencé à croire que c'était possible, qui, en voyant Roger Bannister réussir, se sont dit « Si lui est capable, moi aussi je peux le faire. » Allons maintenant plus loin. J'ai quelques statistiques à vous partager. Vous savez, en moyenne, 1 personne sur 10 va tenir un engagement qu'elle s'est donné. Imaginez, 1 personne sur 10 va se fixer un but ou va se prendre un engagement, mais elle va se rendre au bout. Seulement 1 sur 10. Plus de 95% des gens reviennent à leurs anciennes habitudes à l'intérieur de 3 semaines. Vous le savez, je le dis souvent, on est des êtres d'habitude. On est bien dans nos habitudes. Et effectivement, ce que j'ai appris dans les dernières recherches en neurosciences, c'est que notre cerveau est programmé pour nous ramener toujours dans notre zone de confort. Notre cerveau veut économiser de l'énergie et veut pas, ça nous prend de l'énergie de sortir de notre zone de confort, de faire des nouvelles choses, de développer des nouvelles stratégies, de développer des nouvelles habitudes. C'est excessivement demandant. Et le cerveau, lui, tout ce qu'il veut, c'est nous protéger de ça, économiser notre énergie. Et c'est pour ça que trop souvent, on revient à nos anciennes habitudes. Le naturel revient au galop. Dernière statistique, 8 personnes sur 10 veulent modifier certaines habitudes, mais ne savent pas comment. Alors, quand je vous disais, il y a des gens qui ont réussi autour de vous ce que vous voulez réussir, allez voir ces gens-là, posez-leur des questions, lisez des biographies de gens qui ont réussi ce que vous voulez. Vous voulez monter un empire en immobilier, allez chercher un livre là-dessus. Vous voulez perdre du poids, il y a des lectures là-dessus, il y a des conférences. Donc, inspirez-vous de personnes qui ont réussi ce que vous voulez réussir. Maintenant, je ne peux pas vous parler de sortir de votre zone de confort sans vous parler des 6 étapes du changement. Alors, vous savez, il y a 2 chercheurs qui s'appellent Prochanska et Di Clemente qui ont, eux, étudié de quelle façon est-ce qu'on arrive à changer, mais à faire ce qu'on appelle des changements durables. Alors, il y a 6 étapes et je vais les passer avec vous rapidement, mais ça va vous permettre de comprendre pourquoi, dans certains cas, on se fixe un but, mais qu'en cours de route, on se démotive. Alors, à l'étape numéro 1, c'est l'étape qui s'appelle l'étape de pré-contemplation. Alors, à cette étape-là, on pense même pas à faire le changement. Soit qu'on se dit que ça va être trop difficile, qu'on est bien dans nos habitudes actuelles, on n'est même pas rendu à l'étape d'y penser. Donc, les habitudes qu'on a actuellement nous semblent encore super avantageuses. Ça, c'est l'étape de pré-contemplation. Ensuite, on arrive à la 2e étape qui est la contemplation. À cette étape-là, oups, on commence à se dire pourquoi pas? On commence à penser à faire le changement dans un avenir plus ou moins rapproché, mais on a malheureusement à cette étape-là encore surtout tendance à penser aux inconvénients et aux difficultés qui vont survenir à court ou à moyen terme, plutôt que de voir les avantages. Donc, prenons un exemple concret. Je sais qu'il faudrait que je perde ces quelques livres superflus-là que j'ai accumulés au fil des années. Donc, je commence à y penser. Donc, je suis à l'étape de contemplation, mais en même temps, je me dis « Oh mon Dieu, j'aime tellement ça manger, puis ça va être difficile, puis j'ai pas envie de me priver, puis là, les vacances s'en viennent. » Donc, on se trouve, on voit beaucoup les inconvénients et on regarde pas vraiment le côté avantage qui serait « Je serais en meilleure santé, j'arriverai à me déplacer plus facilement, j'aurai plus de souffle, je serai en meilleure forme physique, je pourrai jouer plus facilement avec mes enfants. » Donc, ça, c'est un exemple. Mais on peut prendre ce même processus de changement à n'importe quel objectif, dans n'importe quelle sphère de votre vie. Donc, l'étape de contemplation. Et lorsqu'on est à l'étape de contemplation, c'est là qu'on veut passer à l'étape suivante. Donc, l'étape suivante, c'est qu'on doit faire balancer. Faut que la balance, dans le fond, deviennent plus pesantes du côté des avantages. C'est quoi mes avantages à soit changer, soit à développer cette nouvelle habitude ou ce nouveau comportement-là, ou à partir en affaires, prenons cet exemple-là. Donc, c'est quoi mes avantages? Parce que effectivement, si je décide que je veux partir en affaires, mais que je suis encore à l'étape de contemplation, c'est sûr que ça va être facile pour moi de voir tous les inconvénients, tous les efforts que je vais avoir à mettre, toutes les difficultés et les épreuves que je risque d'affronter. Et Dieu sait qu'il y en aura. Alors, à l'étape de contemplation, les inconvénients sont encore plus pesants dans la balance. Mais pour être en mesure de passer à l'étape suivante, je dois faire la liste de toutes les raisons. Donc, on revient à notre pourquoi tout à l'heure, mais encore plus puissant, tous les avantages que j'ai à changer. Alors, je vous propose de prendre un objectif que vous avez et de vous asseoir et de vous poser la question, c'est quoi les avantages que j'ai à changer ou à développer cette nouvelle habitude ou à atteindre cet objectif-là? Donc, faites la liste de toutes les raisons qui vont vous inciter à passer à l'action. Et plus vous aurez d'avantages, plus la balance va être pesante du côté des avantages, plus vous augmentez vos chances de passer à l'action et surtout de persévérer. Ensuite, l'étape suivante, si on a bien fait l'exercice, on va arriver à l'étape de la décision. Donc, à cette étape-là, la personne commence à poser des gestes, à faire des plans, à définir sa stratégie. Elle va se poser des questions. Qui peut m'aider pour atteindre mon objectif? C'est quoi les ressources dont je dispose? Donc, déjà là, elle a décidé, sa décision est prise. Et ensuite, ça nous amène à l'étape suivante qui est l'étape de l'action. À cette étape-là, on adopte les comportements, les attitudes qu'on souhaite voir instaurer dans notre vie. On organise notre vie, on organise notre environnement de façon à ce que le changement soit facile. Et évidemment, cette étape-là, ce qu'on doit comprendre, c'est qu'elle requiert non seulement du temps, mais elle requiert aussi de l'énergie, bien évidemment. Mais c'est cette étape-là qui vraiment nous permet d'avancer vers la concrétisation de notre objectif. Donc, évidemment, lorsqu'on est dans l'étape de l'action, faut pas penser qu'on est plus vulnérable. On est encore vulnérable. On n'arrive pas nécessairement à maintenir les changements de façon durable. Donc, évidemment, des fois, il va y avoir des mini-rechutes que j'appelle. Donc, on doit apprendre de ces expériences-là, de ces petites rechutes-là et justement s'ajuster pour persévérer dans nos changements. Donc, on doit toujours élaborer des stratégies pour réussir à garder le cap sur notre objectif. Donc, on doit revoir c'est quoi mes priorités, se mettre dans des meilleures conditions. On doit être en mesure de gérer notre stress puis nos émotions par rapport à ce qu'on vit dans la poursuite de notre objectif. Parfois, c'est le découragement, parfois, c'est la motivation, parfois, c'est la culpabilité d'avoir rechuté un peu. Donc, par exemple, la personne qui suit un régime et qui a fait un petit écart dans la journée, ben évidemment, il va avoir le sentiment de culpabilité. Mais c'est pas parce qu'on a fait un petit écart qu'on doit tout abandonner. Donc, on peut continuer, on peut persévérer. Et cette étape-là où est-ce qu'on est dans l'action, c'est là qu'on doit se réajuster constamment, se bloquer du temps pour penser à comment je vais atteindre mon objectif et aussi être suffisamment reposé. Parce que dans toute quête d'un objectif qui est très important pour nous, veut pas, ça va nous prendre du temps, de l'énergie, mais il faut aussi être en forme. On arrive ensuite à l'étape suivante qui est l'étape du maintien. Donc, à cette étape-là, on a réussi. On a gardé le cap au moins pendant 6 mois et fort probablement que peut-être on a atteint notre objectif. Mais bref, on a développé de nouvelles habitudes qui ont fait en sorte qu'on a non seulement persévéré, mais qu'on maintient le nouveau comportement, la nouvelle habitude. Il arrive à certaines occasions qu'il va avoir des rechutes. Et évidemment, très souvent, quand on pense à des rechutes, on pense à des rechutes au niveau de l'alcool, de la toxicomanie, des drogues, mais c'est pas juste ça. Parfois, on développe un nouveau comportement et on va l'entretenir pendant des mois et des mois. Vous connaissez peut-être des gens, par exemple, qui ont arrêté de fumer pendant 2 ans et qui, malheureusement, ont rechuté, donc ont recommencé à fumer. Mais évidemment, c'est plus rare. L'étape de rechute, à partir du moment où on s'est vraiment rendu à l'étape du maintien, on peut crier victoire. Donc, ce qu'on doit retenir de ces 6 étapes du changement de Prochanska et Di Clemente, c'est que chacune des étapes est importante, mais à partir du moment où vraiment on est rendu à l'étape du maintien, on peut se dire qu'on a réussi. Maintenant, allons un petit peu plus loin. Vous savez, on parle de se fixer des objectifs, on parle d'atteindre nos buts, mais on fait souvent les mêmes erreurs. Les principales erreurs qu'on va faire, premièrement, souvent on a de mauvaises programmations mentales. Alors j'en ai parlé tout à l'heure, ça réfère à notre système de croyances. Deuxième erreur qu'on fait, c'est qu'on se réfère à notre passé. Alors trop souvent on va se dire, ben, par exemple, dans le passé j'ai pas réussi à partir en affaires, ou j'ai pas réussi à augmenter mon chiffre d'affaires, ou j'ai pas réussi à perdre le poids que je voulais, ou j'ai pas réussi à m'entraîner de façon assidue, ou j'ai pas réussi à améliorer ma vie de couple. Donc, on prend pour acquis que si dans le passé on n'a pas réussi, on ne réussira pas aujourd'hui. Et ça, c'est une erreur parce que on sait avec toutes les nouvelles recherches aujourd'hui qui sont menées en neurosciences que l'on peut changer. Et je vais vous expliquer dans quelques minutes pourquoi. Et la troisième erreur qu'on fait, c'est qu'on s'adresse à notre conscient pour tenter de changer. Et ça, c'est une erreur. Ce que je veux vous apprendre, c'est comment aller insérer vos programmations. Alors oui, on va parler d'auto-suggestion. Donc, comment aller insérer vos programmations directement dans votre cerveau en contournant votre conscient? Et très souvent, ce qu'on va me poser comme question, c'est « Oui, mais comment est-ce que je peux faire ça, Stéphanie? » Et vous savez, ce que je dis souvent, c'est le cerveau n'est pas fou. Alors, quand je parle d'auto-suggestion, très souvent en conférence, je vais dire aux gens, vous allez vous prendre un objectif et vous allez vous écrire une phrase d'auto-suggestion que vous allez vous répéter. Mais il faut réaliser que, comme je vous le disais, le cerveau n'est pas fou. Si vous décidez de dire, par exemple, bon, je pars en affaires cette année et je gagne 200 000 $ la première année, et que vous vous répétez ça autant comme autant, veut, veut pas, le cerveau va dire « Voyons donc, ça n'a pas de bon sens. » Et inévitablement, vous allez commencer à avoir ce que j'appelle un discours qui est aliénant, qui ne vous aidera pas. Vous allez automatiquement vous auto-saboter parce que c'est pour votre cerveau complètement irréaliste de croire que du jour au lendemain, parce que vous partez en affaires, vous allez la première année faire, par exemple, 200 000 $. Donc, lorsqu'on parle d'autosuggestion, évidemment, je ne peux pas vous parler de ce sujet sans vous parler d'Émile Coué. Émile Coué qui était le père de l'autosuggestion. Émile Coué qui était pharmacien à l'époque. Et c'est lui vraiment qui est le fondateur de l'autosuggestion. Émile Coué, comment il a découvert ça? C'est qu'à titre de pharmacien, lorsqu'il remettait une prescription à ses patients, il leur disait toujours une petite phrase. Et la phrase était la suivante. « Tous les jours, à tous les points de vue, je vais de mieux en mieux. » Alors, Émile Coué demandait à ses patients, au moment de prendre leur médication, de se répéter cette phrase-là. « À tous les jours, à tous les points de vue, je vais de mieux en mieux. » Et il leur disait de se répéter cette phrase plusieurs fois par jour. Et il a réalisé avec le temps que cette phrase avait des effets sur ses patients. Évidemment, on pourra le comprendre, les patients qui allaient voir leur pharmacien en qui ils avaient très confiance, qui commençaient à non seulement prendre leur médication, mais aussi à se répéter cette phrase, allaient induire de nouvelles croyances dans leur subconscient. Et vous savez, c'est pas d'hier qu'on parle d'autosuggestion, c'est pas moi qui ai inventé ça. Émile Coué en a parlé à la fin des années 1800. Ceci étant dit, ce qu'on sait aujourd'hui avec les nouvelles recherches en neurosciences, c'est qu'on comprend maintenant pourquoi ça fonctionne. Longtemps, on a dit aux gens, bon, répète-toi des phrases plusieurs fois par jour et finalement, éventuellement, ça risque de se concrétiser. Mais la réalité, c'est que pour bien des gens, ça ne fonctionnait pas. Mais ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que les images cérébrales sont perçues par les cinq sens. Et je vous explique. Vous savez, quand on fait de l'autosuggestion ou de la visualisation, donc la visualisation, c'est quelque peu différent, c'est qu'on s'assoit, on ferme les yeux et on commence à voir certaines images de ce qu'on veut atteindre, de nos objectifs. L'autosuggestion, c'est plutôt des phrases qu'on va formuler et qu'on va redire plusieurs fois dans la journée. Ceci étant dit, ce qu'on sait avec les nouvelles recherches, c'est que les images cérébrales, comme je vous le disais, sont perçues par nos cinq sens. C'est d'ailleurs ce qui explique, vous avez peut-être déjà entendu parler de ce fameux test où on demande à des gens de fermer leurs yeux et de s'imaginer en train de croquer dans un citron. Alors, je vous demande de le faire. Puis évidemment, si vous êtes au volant de votre voiture, ne fermez pas les yeux, c'est dangereux. Mais fermez les yeux et imaginez que vous croquez dans un citron. Et je parie qu'au moment où je vous dis ça actuellement, on ressent la sensation. Et pourtant, on n'est pas en train de croquer dans un citron, mais notre cerveau, notre système cérébral est en mesure de percevoir simplement cette image du fait qu'on croque dans un citron. Vous savez, c'est notre imagination qui nous pousse ou non à agir. Et ça, c'est pas d'hier. Hein? Le premier à en avoir parlé, c'est Blaise Pascal. Ensuite, c'est Émile Coué qui est arrivé justement avec son autosuggestion. Et plus récemment, c'est Anthony Robbins qui a parlé de ce fameux test. Peut-être que vous avez déjà lu ça en quelque part. Et c'est ce qu'on appelle le test de la poutre. Alors, le test de la poutre, c'est quoi? C'est que, par exemple, si j'ai 1000 personnes dans une salle, 1000 personnes à qui je demande de marcher sur une poutre de peut-être 5 mètres de long et en largeur, là, assez large là, pour supporter amplement là, la largeur de votre soulier. Et si je demande à ces 1000 personnes-là de traverser la poutre, qui est à peu près à un pied du sol, fort à parier que l'ensemble des gens, à moins d'avoir un handicap physique, vont dire « oui, je vais le faire ». Par contre, si je prends cette même poutre-là et que je la mets à 30 pieds dans les airs, c'est la même poutre, elle a la même longueur, elle a la même largeur. Mais évidemment, si je demande à ces mêmes 1000 personnes-là de traverser cette poutre-là, fort probablement que l'ensemble des gens vont dire non, à moins d'une récompense monétaire très grande. Et encore là, il y en a qui vont refuser. Pourquoi? Pourtant, c'est la même poutre. Mais évidemment, à partir du moment où l'émotion embarque, lorsqu'on a la peur, parce qu'évidemment, une poutre qui est à 30 pieds, on peut commencer à se faire des scénarios et se dire « je vais sûrement tomber, si je perds l'équilibre, qu'est-ce qui va arriver? » Et là, qu'est-ce qui se passe? L'émotion embarque. Et à partir du moment où l'émotion embarque, on est paralysé et c'est là qu'on arrête d'avancer. Et c'est exactement la même chose lorsqu'on poursuit un objectif. Très souvent, quel que soit l'objectif qu'on poursuit, Au départ, comme je le dis, on est super motivé, mais plus on avance, plus on commence à avoir parfois des doutes, de la démotivation, sentiment de culpabilité d'avoir triché ou de ne pas avoir respecté notre engagement. Et là, les émotions embarquent. Et dites-vous une chose, lorsque les émotions négatives embarquent, on commence à s'auto-saboter. On commence à avoir un discours aliénant. On commence à se démotiver. Alors, ce qui est très important, c'est de prendre conscience qu'on doit s'organiser pour rester toujours dans ce que j'appelle des énergies positives. Chaque fois que vous tombez dans des émotions négatives, vous vous éloignez de votre but. Et c'est ça le défi. Mais revenons à ce qu'on s'est dit. Plus mon pourquoi va être puissant, plus je risque, malgré les embûches, malgré les difficultés, plus je risque de persévérer. Plus je risque aussi d'être capable, même si j'ai pas respecté nécessairement mon engagement pendant une journée, de me dire « c'est pas grave, je continuerai demain, donc je ne me démotiverai pas ». Mais on doit faire attention justement aux émotions qu'on vit par rapport. Et c'est pour ça qu'au début de cet enregistrement, je vous disais c'est beau de vouloir poursuivre un objectif, mais est-ce que j'ai du plaisir tout le long de ce chemin-là, tout le long de la poursuite de mon objectif? Donc, réalisons une chose, l'imagination, c'est un puissant vecteur qui nous aide à obtenir ce que l'on désire. Et ça fait des années qu'on sait, et moi j'ai lu ça dans plusieurs livres, que le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui est imaginé. Et pendant des années, je me disais, OK, c'est super, mais comment est-ce qu'on peut prouver ça? Le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui est imaginé. Et en termes clairs, que votre grand-mère soit là en face de vous, en chair et en os, ou qu'elle vous apparaisse en souvenir dans votre tête, pour votre cerveau, il n'y a aucune différence. Donc, c'est vraiment ce qui explique pourquoi c'est très puissant de visualiser. Et comme on sait que c'est la même chose au niveau de l'audition, donc que ça va chercher les mêmes circuits neuronaux, donc, on sait aussi que l'autosuggestion est très puissante. Donc, il y a trois directives que je vais vous proposer en matière d'autosuggestion. Vous pouvez décider aussi d'utiliser la visualisation. Aujourd'hui, j'ai décidé de me concentrer plus sur l'autosuggestion. Première directive super importante, c'est qu'on doit arriver à créer ce que j'appelle une alliance entre votre volonté consciente, donc ce que vous voulez le jour, et votre imagination qui agit sur l'inconscient, donc ce qui se passe la nuit. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre un ou deux objectifs, vous allez écrire une phrase ou deux d'autosuggestion et vous allez l'induire juste avant le sommeil. Alors, ça veut dire quoi l'induire avant le sommeil? Vous savez, j'ai lu beaucoup sur le sommeil et on sait qu'il y a différentes phases de sommeil. Au début, avant de s'endormir, on a ce qu'on appelle la phase éveil. Il y a ensuite le sommeil lent, le sommeil paradoxal, les phases intermédiaires, donc il y a plusieurs phases, mais on veut, juste avant de se coucher, se répéter nos programmations, donc nos phrases d'autosuggestion. Et ce, plusieurs fois. Donc ça, c'est la première condition. Deuxième condition, vous devez mémoriser vos phrases d'autosuggestion. Donc, vous devez les apprendre par cœur. Et en principe, si vous en avez une ou deux, ça sera pas long. Après quelques jours, vous allez les connaître par cœur. Et la troisième condition, super importante, c'est d'utiliser ce que j'appelle l'effet multiplicateur. Ça veut dire quoi? Vous savez, il y a plusieurs années, en psychothérapie, je proposais à certaines personnes d'utiliser justement, combiné évidemment avec plein d'autres stratégies, mais je leur proposais d'utiliser l'autosuggestion. Et il y a des gens qui m'ont dit, après deux ou trois semaines, « Stéphanie, j'utilise l'autosuggestion, je me le dis 3-4 fois dans la journée, mais je réalise que, il me semble, ça ne marche pas. » Ce qu'on doit réaliser quand on parle d'utiliser l'effet multiplicateur, l'autosuggestion fonctionne si on se le dit souvent. Donc, 3-4 fois, ce n'est pas suffisant. Dites-le beaucoup de fois dans la journée. Donc, le plus souvent possible quand vous y pensez. Moi, très souvent, c'est ce que je dis d'ailleurs dans mon défi 22 jours. Je ne sais pas si vous avez fait mon défi 22 jours. Si ce n'est pas le cas, vous irez prendre l'information. C'est un défi qui est gratuit. Alors, c'est 22 jours où je vais vous envoyer une courte vidéo de 4 à 5 minutes tous les matins pour bien commencer votre journée, pour vraiment prendre le contrôle de votre vie et c'est tout à fait gratuit. Mais ceci étant dit, dans le défi 22 jours, il y a une journée où je parle d'autosuggestion et où j'explique que lorsque j'ai des autosuggestions nouvelles, je vais me mettre ce que j'appelle en anglais des reminders, donc moi j'utilise des post-it jaunes pour me rappeler que j'ai une nouvelle autosuggestion. Alors je vais m'en mettre dans la salle de bain, sur le volant de mon véhicule, dans la cuisine. Donc le temps que je me rappelle que j'ai cette nouvelle programmation là, que je dois rentrer dans ma routine pour ne pas oublier. Donc à chaque fois que j'arrive dans la salle de bain et que je vois le post-it jaune par exemple, je me dis oh, faut que je me redise mes phrases d'autosuggestion ou ma nouvelle phrase. Donc, on parle d'atteindre nos objectifs, on parle de se fixer des objectifs. Et vous voyez, pour moi, il y a une différence entre se fixer un objectif et l'atteindre. Il y a tout un processus quand on parle d'atteindre nos objectifs. Et pendant des années, on a pensé que pour changer une habitude ou développer un nouveau comportement, ça prenait à peu près 21 jours. On disait ça dans tous les livres. Et moi-même, je l'ai écrit dans certains livres, je l'ai déjà dit en conférence. Maintenant, on sait aujourd'hui qu'en accord avec les nouvelles recherches qui sont menées à l'Université College London, on sait que ça prend en moyenne 66 jours. Et 66 jours, c'est important de réaliser que c'est une moyenne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que certaines habitudes que vous allez peut-être pouvoir développer en moins. Peut-être que, si exemple, vous dites « Moi, maintenant, je veux boire un verre d'eau de plus par jour », ça se peut que ça vous prenne juste 4 jours à développer cette nouvelle habitude, qui est en soi une habitude pas si difficile à développer. À l'inverse, la personne qui fume depuis 35 ans, ça se peut que ça lui prenne plus que 66 jours pour arrêter de fumer. Donc, on doit comprendre que c'est une moyenne. En moyenne, ça prend 66 jours qu'on doit persévérer, que le naturel, on l'a dit au début, puis je le redis, le naturel revient facilement au galop. Donc, de croire que ça prend juste 21 jours et qu'au bout du 21 jours, vous allez nécessairement réussir, on sait aujourd'hui que c'est une illusion, que ça peut être plus long. Maintenant, toutes les nouvelles études en neurosciences nous le prouvent. Le cerveau peut se modifier. Le cerveau peut créer de nouvelles connexions neuronales. On appelle ça la neuroplasticité. Donc, je veux pas aller dans des choses trop complexes, mais ce que c'est la neuroplasticité, c'est qu'une habitude que l'on répète, finit par devenir un automatisme et elle finit par creuser dans votre cerveau. Et ça, on le sait maintenant de source sûre. Ça finit par creuser de nouvelles connexions neuronales qui font en sorte que, à un moment donné, ça devient plus difficile de ne pas adopter ce nouveau comportement que vous avez développé que de revenir à ce que vous étiez avant. Mais ça demande justement que vous soyez rendu dans on a parlé de notre cercle de changement tout à l'heure, que vous soyez rendu à l'étape où vous avez réussi. Donc, super important. Donc, à partir du moment où une nouvelle habitude ou un nouveau comportement est intégré, par la suite, on réalise que des fois, ça devient presque impossible d'agir comme avant. Et c'est là qu'on peut se dire « mission accomplie ». Vous savez, il y a plusieurs années, j'ai lu un livre extraordinaire qui s'appelait « Les drogues positives » de l'auteur William Glasser. Les drogues positives, j'avais trouvé ça fascinant parce que l'auteur expliquait une chose. Il disait, vous savez, la plupart des êtres humains, malheureusement, on a beaucoup de facilité à tomber dans des addictions. Les addictions telles que la drogue, telles que l'alcool, telles que le jeu compulsif, le magasinage, le sexe. Mais il expliquait que aussi facile c'est de tomber, pour certaines personnes, dans des addictions, aussi facile ça pourrait être de développer certaines bonnes addictions. Et j'aime pas utiliser le mot addiction, mais c'est ce qu'il utilisait. Il disait, par exemple, qu'il y a des gens qui deviennent accros au sport, accros au jogging, et qu'à partir du moment où ils ont développé cette nouvelle habitude d'aller, par exemple, courir 5 fois par semaine, les sportifs ne peuvent plus s'en passer. Et s'ils ne vont pas courir, ils se sentent mal. Donc, évidemment, on sait qu'effectivement, toute habitude peut se développer. Donc, les recherches en neuroplasticité nous prouvent qu'on peut apprendre ou désapprendre un comportement, donc qu'on peut changer. Alors, si, par exemple, dans les croyances que vous avez énumérées dans votre exercice plus tôt, vous avez une des croyances qui dit, ben, qu'est-ce que tu veux, je peux pas changer, moi j'ai toujours été colérique, c'est comme ça, c'est comme ça dans ma famille, sachez que c'est faux. Vous pouvez transformer n'importe quelle de vos caractéristiques au niveau de votre comportement. Vous pouvez développer des nouvelles habitudes. Vous pouvez décider de devenir persévérant. Peut-être que vous ne l'avez jamais été dans votre passé, mais vous pouvez décider de développer cette nouvelle compétence qui, évidemment, saura vous aider. Alors, l'idée, c'est de comprendre vos mécanismes mentaux et de comprendre les stratégies qui font que vous persévérez. Et ce que je vous propose, c'est de vous poser la question, dans le passé, est-ce qu'il y a des objectifs que vous vous êtes fixés et que vous avez atteints? Et si oui, quelles ont été les stratégies? Et moi, je vous donne deux outils qui ont fonctionné pour moi, qui ont fonctionné pour moi. Premier outil, j'ai réalisé que quand j'ai un partenaire, donc quelqu'un à qui je dois me rapporter, alors en anglais, on appelle ça un accountability partner, quelqu'un à qui je dois rendre des comptes. Et je l'ai fait récemment. Je me suis lancé un défi pendant 66 jours de me lever à 5 heures du matin et on était deux à faire ce défi-là. On a relevé tous les deux ce défi avec brio. Ceci étant dit, je sais pertinemment, je peux vous dire qu'il y a des matins où, honnêtement, si j'avais pas eu mon partenaire acquis parce qu'on s'était dit qu'on allait s'envoyer un message texte à tous les matins à 5 heures lorsque le cadran allait sonner pour se dire « Ok, allô, je suis réveillée, donc j'ai rempli ma mission aujourd'hui » et ce pendant 66 jours parce qu'on voulait développer cette habitude d'avoir du temps pour nous le matin. Mais j'ai réalisé une chose, c'est qu'il y a quelques fois dans les 66 jours où fort probablement que je ne me serais pas levée parce que la veille, je m'étais couchée trop tard. Mais parce que j'avais ce partenaire-là et parce qu'en quelque part, j'ai réalisé que peut-être que j'étais plus orgueilleuse que je le pensais, mais parce qu'aussi je voulais être fière de moi-même, j'ai relevé le défi. Donc pendant les 66 jours, je me suis levée à 5 heures du matin. Alors ça, c'est une stratégie pour moi qui fonctionne. Alors peut-être que pour vous, elle saura fonctionner. Donc d'avoir un partenaire, d'avoir quelqu'un qui va vous supporter dans l'atteinte et la persévérance de vos objectifs. Un autre truc qui fonctionne pour moi, c'est de me donner des délais. Alors, j'ai réalisé que, là, exemple, dans ce défi-là, je savais que j'avais 66 jours à le faire. Ensuite, je me suis embarquée dans un autre programme où j'avais 90 jours à faire quelque chose à tous les matins, donc dans mon heure, justement, où est-ce que je prends du temps pour travailler sur moi. Et j'ai réalisé que le fait de savoir que j'ai une date de début, une date de fin, pour moi, Stéphanie, c'est motivant. Alors, c'est des petits trucs que je vous donne. Peut-être que ça saura être efficace pour vous. Ceci étant dit, vous devez vous comprendre, vous analyser, comprendre c'est quoi les stratégies qui fonctionnent pour vous. Donc, en résumé, alors, un, j'espère que vous avez aimé cet audio, mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est que j'ai envie de résumer ce qu'on a vu dans la dernière heure ensemble. Donc, premièrement, vous allez choisir un ou deux objectifs. Deuxièmement, vous allez faire mon exercice des croyances. Donc, examinez vraiment en profondeur quel est votre système de croyances. Troisièmement, vous allez vous créer une ou deux phrases d'auto-suggestion. Quatrièmement, vous allez mémoriser cette ou ces phrases. Cinquièmement, vous allez induire vos programmations juste avant de vous coucher et vous allez les répéter aussi plusieurs fois par jour. Donc, vous pourrez vous mettre des éléments de rappel pour vous le rappeler. Sixièmement, vous allez vous organiser pour toujours le plus possible rester dans des émotions agréables par rapport à l'atteinte de votre objectif. Et vous allez devoir aussi apprendre à faire taire votre petite voix intérieure, des fois de découragement, de démotivation. Donc peut-être que ce sera votre partenaire que vous appellerez lorsque vous serez démotivé. Alors vous pourrez peut-être avoir cette entente de dire, regarde, quand des fois je vais avoir envie de tout lâcher, est-ce que je peux t'appeler? Donc ça peut être aidant. Et finalement, ben évidemment, septièmement, n'oubliez jamais que tout ce que vous venez d'entendre, ça va fonctionner si vous l'utilisez. Donc, c'est l'utilisation de la connaissance qui est le pouvoir. Alors, j'espère que vous allez appliquer ce que vous avez entendu. Je vous dis merci, merci du fond du cœur de votre confiance. Merci du temps que vous m'avez accordé. Et je vous dis à la prochaine. Salut!